D'abord, ce qui me semble intéressant positivement, c'est de voir que l'Église et le Christ par-delà restent un signe de contradiction. Et il ne faut pas que les catholiques s'en étonnent. Ça fait 2000 ans que ça dure. L'Église et le Christ seront toujours un signe de contradiction pour le monde. Et à la limite, le jour où le monde, le jour où les médias ne s'occupent plus de nous, tombent dans une indifférence totale, ou alors ne disent que du bien, eh bien ce serait mauvais signe, voyez. Je préfère encore ces critiques à l'indifférence, parce que ça montre que justement l'Église continue d'interroger. Et c'est vrai que le mystère de l'Église est un mystère pour le monde. Et c'est vrai que pour un journaliste qui n'a pas la foi, et c'est vrai que pour des personnes qui ne comprennent pas le mystère de l'Église, eh bien ça reste un signe de contradiction. Mais comment voulez-vous qu'on espère autre chose alors que le Christ lui-même, et on s'en souvient pendant la Semaine Sainte, a suscité ses oppositions jusqu'à donner sa vie, jusqu'à devoir donner sa vie. Donc je ne sais pas si les attaques sont plus importantes ou pas. Je ne voudrais pas non plus dramatiser dans le sens où il y a aujourd'hui des catholiques qui dans le monde payent de leur vie le fait d'être catholiques. Ça c'est le vrai martyr. Aujourd'hui c'est ça l'urgence, c'est protéger ces chrétiens et de dénoncer ces crimes. Maintenant qu'il y ait une sorte de persécution un peu plus insidieuse, un peu plus ambiguë, qui est de l'ordre du combat des idées, qui est de l'ordre du dénigrement je dirais plutôt, que voulez-vous ? Ça ne paraît pas très nouveau depuis 2000 ans.
On remarque que c'est une vision, la vision d'une église réactionnaire, hostile au monde, drapée dans ses secrets. C'est une vision qui est somme toute très répandue. Est-ce que l'église a une part de responsabilité ?
D'abord, je voudrais dire que ce qui me frappe, c'est que c'est une vision complètement binaire de l'église. Il y aurait d'un côté les affreux intégristes, traditionnalistes, et on met tout le monde dans le même sac évidemment, les forces obscurantistes, hein, c'est la première chose que dit le réalisateur dans les trois premières phrases de son reportage. Et puis de l'autre, il y aurait les forces du progrès, les forces de la modernité, les partisans de la modernité, etc. Comme si on pouvait réduire l'Église dans un affrontement binaire entre ces deux étiquettes caricaturales. C'est tellement réducteur. Comment voulez-vous réduire Jean-Paul II à une question d'étiquette ? Conservateur, moderniste, libéral, traditionnaliste. Ce sont des étiquettes qui sont réductrices, qui sont caricaturales et qui sont tellement pas d'ailleurs révélatrices de la jeune génération qui vient. Moi, je m'occupe beaucoup de jeunes dans mon ministère. Je peux vous dire qu'il y a une chose qui me frappe, c'est que les jeunes, la génération Jean-Paul II, la génération Benoît XVI, ne veut plus de ces étiquettes. Ils aiment l'Église telle qu'elle est, ils sont capables de se réjouir du bien qu'il y a, qui se fait d'ailleurs différemment, parce que c'est la richesse de l'Église d'avoir cette diversité de sensibilité, et ils vont prendre le bien où il est, et ils s'en réjouissent. Ce pauvre réalisateur, si vous voulez, projette des combats sur les jeunes qui ne sont plus les nôtres.
Cette année, c'est le 50e anniversaire du Concile Vatican II, et lui, le réalisateur, il se met un peu en porte-à-faux, et lui, il dit carrément que le Concile Vatican II, c'est un échec, et que le fossoyeur de Vatican II, eh bien, c'est l'Église elle-même, et surtout les papes, donc c'est-à-dire Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Qu'avez-vous à dire là-dessus ?
Aujourd'hui, on assiste à l'échec, non pas du Concile, mais de ceux qui ont voulu instrumentaliser le Concile, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs. Ceux qui ont voulu instrumentaliser le Concile pour en faire la raison de tous les maux et de toutes les crises de l'Église et de toute la difficulté de l'Église, et se sont séparés du coup de l'Église en utilisant le Concile comme l'ennemi, en faisant du Concile l'ennemi numéro 1, sans voir les fruits du Concile. Et de même, ceux qui ont instrumentalisé le Concile dans le sens inverse, en voulant utiliser le Concile pour faire la révolution dans l'Église. Ce n'était pas le souhait du Concile, ce n'était pas le désir du Concile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve très intéressant ce que dit Benoît XVI. Il nous invite, et Jean-Paul II l'avait fait avant lui, à revenir au texte du Concile, à revenir au véritable esprit du Concile, qui est un esprit évidemment profondément catholique. Benoît XVI le disait, il faut retrouver cette herméneutique de la continuité. Aujourd'hui, je crois que il est temps, et en tout cas c'est le grand souhait de ma génération, justement de sortir des combats de droite ou de gauche qui instrumentalisaient le Concile et de revenir à une lecture priante, à une lecture croyante, à une lecture obéissante, à une lecture confiante de la parole de l'Église, de cet extraordinaire message qui reste encore à appliquer et à vivre.
En fait, c'est une Église en totale déroute qu'il décrit dans son reportage. Il dit en gros que les scandales qui frappent donc cette Église, qui la traverse, ce sont des coups dont elle ne se relèvera pas. Qu'est-ce que vous en dites ?
Là aussi, brave homme se trompe piteusement parce que d'abord il oublie une chose, c'est que l'Église n'est pas juste une sorte d'ONG mondiale ou de Nations Unies, Cato, j'en sais rien. C'est une institution qui est à la fois humaine et divine. Et parce qu'elle est aussi divine, elle a les paroles de la vie éternelle. Et donc elle s'est relevée depuis 2000 ans de beaucoup beaucoup de choses, y compris du reniement de son premier pape, Saint-Pierre. Voilà, je n'ai aucun doute sur le fait que l'Église survivra à ce réalisateur. La deuxième chose, c'est que, bien sûr qu'aussi, l'Église est humaine. Et c'est vrai, c'est pas nouveau. Depuis 2000 ans, il suffit de voir les apôtres déjà entre eux. Depuis 2000 ans, la faiblesse des hommes d'Église, des membres de l'Église, des catholiques, a parfois abîmé, a parfois voilé la beauté, la splendeur de l'Église. Et j'ai été extrêmement bouleversé, profondément ému de voir cette humilité de Jean-Paul II ou de Benoît XVI demandant pardon, non pas pour les péchés de l'Église, mais comme une mère, l'Église demande pardon pour les péchés de ses membres, de ses enfants, oui. Et ça, on ne le fera jamais assez. On ne fera jamais assez non plus le fait de dénoncer la trahison des brebis galeuses. Et je pense au scandale de pédophilie. Benoît XVI, on peut lui en être gré, sera le pape de la tolérance zéro, sera le pape qui aura fait, justement, mettre au grand jour ces scandales-là pour dire plus jamais ça. Mais moi, je refuse que quelques brebis galeuses viennent salir l'immense travail et la fidélité du plus grand nombre, vous comprenez ? Et je crois que c'est aussi ça c'est là-dessus que ce gars est malhonnête dans son film, c'est qu'il ne parle pas de l'Église réellement. Il vient pointer des caricatures, que ce soit les scandales qui sont réels, que ce soit des personnalités excessives ou caricaturales. Il en oublie quoi ? Il en oublie l'immense majorité des chrétiens qui sont heureux d'être chrétiens. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, face à ce genre de démission ou à ce genre de malhonnêteté intellectuelle, d'attaque, de dénigrement, l'enjeu, c'est pour les catholiques que nous sommes, et en particulier pour les jeunes générations, c'est surtout pas de nous replier dans une sorte de mentalité de citadelle assiégée parce qu'on ne serait plus missionnaire. Il ne faut pas être sur la défensive. C'est ce que ces gens attendent, en fait. C'est de voir les catholiques partir en exil, en fait. Renoncer, justement, à convertir, à aimer le monde, à lui apporter la bonne nouvelle. L'heure est à l'annonce, et une annonce décomplexée, une annonce joyeuse, une annonce intelligente, une annonce libre de l'Évangile. Notre époque est pour ça vraiment stimulante et pleine d'espérance.